Le journal Adia Chipoukou. Voici les grandes lignes de cette édition. Près de 10 personnes blessées, c'est le bilan des échauffourées ce matin à Mbujimayi. Des manifestants du PPRD protestant contre la tenue d'un dialogue avant le 30 juillet accusent des militants de l'UDPS de les avoir attaqués. Coup de balai au sein des forces armées de la RDC, 632 militaires ont été retraités de l'armée. Il s'agit des invalides et des personnes ayant atteint l'âge de retraite. Le ministre de la Défense rassure que ces soldats seront pris en charge par le ministère des Affaires sociales. Les hôpitaux publics de Kinshasa frappés par la grève des infirmiers. Au chapitre des revendications, le respect du cahier de charge des infirmiers, la reprise du dialogue entre le gouvernement et les infirmiers. Quelles sont les conséquences de cette grève dans les hôpitaux de Kinshasa? La réponse dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et ouvrons tout de suite ce journal par Mbujimayi au Kasaï oriental où des tensions ont été signalées ce matin. Des incidents ont émaillé le parcours des partisans du PPRD et ses alliés en pleine marche de soutien aux élections. Ces militants protestaient contre toute idée de négociation avant la tenue des élections du 30 juillet prochain, mais ils disent avoir été attaqués par des partisans de l'UDPS. Des explications avec Julien Nyamwini.
Une dizaine de blessés, c'est le bilan des incidents lors de la marche pacifique du PPRD de Mbujimayi qui a eu lieu ce vendredi matin vers 11h. Bien qu'encadrée par la police, la marche a connu des incidents sur son trajet. Un journaliste d'une télévision locale a notamment été grièvement blessé et son matériel de reportage confisqué par des jeunes en colère contre les manifestants du PPRD. Selon le secrétariat du PPRD, il s'agirait des jeunes de l'UDPS. Mais interrogé, le président fédéral de l'UDPS, Pierre Nsana, rejette cette accusation. Il souhaite évaluer plutôt la capacité de mobilisation du PPRD sur le terrain. Raison de plus, selon lui, pour ne pas perturber une telle manifestation. Benoît Kazadi, secrétaire du PPRD, secrétaire exécutif du PPRD Kasaï Oriental, a déclaré que l'objectif de cette marche était de soutenir les élections à la date du 30 juillet et rejeter de nouvelles négociations avant cette date. Les calcos reproduisaient ce message, je cite, « Les véritables négociations sont celles des urnes avec tout le peuple ». Des citations, des échauffourées ont encore eu lieu durant quelques heures et une démonstration de force de la police et d'intervention rapide mobilisant une vingtaine de véhicules s'en est suivie vers 16h. Julien Diamouini, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Maniema, l'on s'active plutôt à trouver des solutions aux problèmes de sécurité à Kabambaré, à plus de 400 km au sud de Kindu. Une mission conjointe composée des membres du Conseil de sécurité provincial du Maniema, de la responsable de la CONADER et des observateurs militaires de la MONUC s'est rendue hier jeudi dans ce territoire. Comme nous l'avons dit, c'est pour étudier les voies et moyens pour sécuriser la collectivité secteur de Babouyou en proie à l'insécurité à cause de la présence de 3 groupes armés incontrôlés. Il s'agit des Pygmées, des Interahamwe et des Raya Mutomboki. Mamia Lichibangu nous en parle.
Concernant les Pygmées et les Raya Mutomboki, le gouverneur a demandé à l'administrateur de faire appel aux responsables de ces deux groupes pour des négociations. Ceci en vue de désarmer et démobiliser ces groupes armés incontrôlés afin de créer un bon climat pour les élections à Babouyou. Les Pygmées Maïma et les Interahamwe sont revenus des Nyunzu dans les Katanga et des Fizi dans le sud Kivu. Quant aux Raya Mutomboki, il s'agit d'une autodéfense populaire née depuis la deuxième guerre du RCD. Tous ces éléments tracassent, violent les femmes et commettent d'autres exactions contre la population civile. Ils empêchent ainsi l'extension de l'autorité de l'État dans cette partie du Maniema. Les populations des Kabambare qui se sentaient oubliés et abandonnés ont beaucoup apprécié cette visite des autorités de la province. Mamia Lichibangu, Kindu, Radio Okapi.
Revenons à Kinshasa pour signaler ce coup de balai au sein des forces armées de la RDC. 632 militaires des FRDC ont été retraités de l'armée. Il s'agit des invalides et des personnes ayant atteint l'âge de retraite. Ce début d'assainissement de l'armée congolaise touche des militaires affectés au sein du ministère de la Défense et des unités qui y sont rattachées à Kinshasa. Cette opération vise entre autres à rationaliser le fonctionnement des forces et améliorer le paiement des effectifs réellement opérationnels. À propos de la prise en charge actuelle de ces militaires retraités, le ministre de la Défense affirme qu'ils ne perdent aucun avantage. Adolphe Onusumba, joint par Mimi Ngumba Mulongo.
Une chose est vraie d'abord, tout militaire qui part en retraite ou qui est démobilisé en fonction de PNDDR qui est en vigueur dans notre pays, ne perd aucun avantage par rapport à son rang de quelqu'un qui a servi. Ces gens-là vont être pris en charge par le gouvernement de la République au niveau du ministère des Affaires sociales et les démobiliser où ils vont recevoir le filet de sécurité qui est donné par la CONADER. Et ils sont pris en charge par la CONADER pendant 2 ans et dans l'entretemps, on leur donne une formation qui va leur permettre l'intégration dans la vie civile. Cela en vue de permettre la décongestion et faciliter à l'armée de gérer les cas des éléments actifs jusqu'au moment où le gouvernement va avoir les moyens de pouvoir payer le droit de retraite et tous les frais liés à leurs droits.
Parlons santé d'abord avec le lancement ce vendredi à Boma de la campagne 2006 de riposte de poliovirus sauvage. Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement pour l'événement, notamment les responsables politiques congolais ainsi que les partenaires de la RDC dans le secteur sanitaire. Dani Kindanzita nous appelle de Boma.
Située à 120 km de Matadi, la ville de Boma était ce matin la capitale sanitaire de la RD Congo. Les autorités politico-administratives sont arrivées dans cette ville pour le lancement officiel de la campagne de riposte au virus sauvage. Deux de poliovirus sauvage ont été découvertes à Boma et qu'ils ont été cités de la zone sanitaire du Bas-Fleuve au mois de mai dernier et juin. C'est ce qui justifie la présence des responsables politiques du pays et des différents partenaires dans le domaine sanitaire. Cette campagne concerne le Bas-Congo et la ville-province de Kinshasa. Signalons que 530 000 enfants doivent être vaccinés simultanément en Angola et au Congo-Brazzaville. Par ailleurs, pour cette campagne, les vaccinateurs passent de porte à porte. De Boma, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
À propos justement de la poliomyélite, sachez qu'un nouveau cas vient d'être détecté à Chikapa dans le Kasaï occidental. Il s'agit d'un enfant d'une année et demie. Nous disions en titre, les hôpitaux publics de Kinshasa frappés par la grève des infirmiers. Le mouvement a été enclenché depuis le mercredi 7 juin. Au chapitre des revendications, le respect du cahier de charges des infirmiers, la reprise du dialogue entre le gouvernement et les infirmiers. René Capita a circulé ce vendredi dans quelques hôpitaux de la ville et nous fait le point.
C'est un spectacle désolant auquel nous avons assisté dans les hôpitaux publics que nous avons visités cet avant-midi à Kinshasa. Les infirmiers en tenue civile sont regroupés d'aucuns dans les allées desservant les différents pavillons et d'autres à côté des kiosques en train de prendre un rafraîchissement. À l'hôpital général, les pavillons sont quasi déserts. Selon un infirmier rencontré sur place, la plupart des malades sont allés se faire soigner dans les polycliniques privées. Tandis que d'autres, ne disposant pas des moyens financiers nécessaires, attendent désespérément les secours du personnel de la santé. Sylvain Bukatu Kangombe, délégué syndical principal adjoint de la solidarité des syndicats des infirmiers du Congo, Solsico, explique les principales revendications des personnels de la santé.
Il y a non-mécanisation des nouvelles unités, des infirmiers qui sont actifs mais qu'on appelle aujourd'hui rejetés. Il y a des omis, des présumeurs bons qu'on ne paye pas. Ça fait une année. Nous avons revendiqué aussi notre deuxième tranche de primes de risque qui se solde à 3,5 milliards que le gouvernement a promis de donner qu'il n'a pas donné. Croyez-vous qu'on meurt seulement de maladie et pas de faim? Nous étions pour parler avec le gouvernement. Curieusement, il y a une semaine, le gouvernement a rompu totalement avec nous. Quand on met un programme en place pour qu'on se raconte, le ministère de la Santé, à plusieurs reprises, il ne vient pas aux négociations. Parce qu'on a vu qu'il y a quelque part une mauvaise volonté.
Néanmoins, a-t-il ajouté, à l'hôpital général, un service très réduit est assuré pour les soins intensifs.
Situation sanitaire préoccupante à Bangadi, village situé à environ 100 km du territoire de Dungu, dans le district du Haut-Wélé, c'est dans la province orientale. Au moins 4 femmes ont trouvé la mort au mois de mai dernier, faute d'une prise en charge adéquate. Constat établi par une mission de l'Église catholique qui vient de séjourner dans cette partie du diocèse de Dungu. Les autorités sanitaires et administratives du district du Haut-Wélé déclarent que ces accidents mortels sont fréquents dans le district d'Orkaskanko.
Au mois de mai dernier, 4 femmes ont trouvé la mort en l'espace de 10 jours dans ces villages. Seul un bébé a pu être sauvé. Selon M. l'abbé André Walia du diocèse de Dungu, qui revient d'une mission pastorale dans cette paroisse, tous ces accouchements mortels sont occasionnés par un manque de prise en charge médicale efficace. L'hôpital de cette contrée ne dispose pas d'un médecin. L'unique qui s'y trouvait a quitté le lieu depuis 1996. À cela s'ajoutent les difficultés de transport entre les structures sanitaires pour les responsables médicaux du district. Ces informations ont été confirmées par les autorités administratives et sanitaires du district du Haut-Ouélé. Pour elles, ces difficultés ne sont pas particulières au seul centre de Bangadi, mais elles sont plutôt généralisées pour tous les centres médicaux de l'arrière-district. Docteur Mandana, médecin du district du Haut-Ouélé, lance ainsi un appel au gouvernement et aux ONG pour songer à doter les hôpitaux de l'arrière-pays de moyens d'action nécessaires pour leur travail. Dorcas Kankou, Kisangani, Radio Okapi.
Au sud Kivu, c'est la peste porcine, dite africaine, qui fait rage dans les porcheries de la plaine de la Ruzizi. Plus de 200 cochons sont morts de suite de ce virus en l'espace d'un mois. Les localités les plus touchées sont notamment Ndunda, Ruzabagi et Kigurwe, près de la cité de Sangué, à une trentaine de kilomètres au nord d'Uvira. Constat d'une mission interagence FAO, OCHA et l'inspection agricole qui s'est rendue jeudi sur le lieu. On écoute le docteur Rouara Omari, inspecteur agricole à Uvira. Il est au micro de Dieudonné Bagaloua.
Quand les porcs ont été atteints, les paysans, comme ils connaissent bien la maladie, et ils ont presque tout éliminé. Après les statistiques de mes agents vétérinaires, au village de Ndunda seulement, on peut avoir dans les 150. Pour la population, je l'ai redit hier, il faut qu'ils fassent un vide sanitaire d'au moins 3 mois. Le virus de la peste porcine, on suppose qu'après 3 mois, il aurait disparu dans ces contrées. Il n'y a pas de vaccin d'abord. Tout ce qu'on peut faire quand il y a la maladie se déclare, on fait le stopping out, c'est-à-dire qu'on élimine tous les sujets, on repeuple de nouveau après 3 mois. Il faut que la porcherie soit propre, une désinfection régulière, éviter à ce que n'importe qui entre là-bas, juste les gens qui travaillent dans la porcherie.
Autre chose à présent, l'Institut supérieur de commerce et l'Institut supérieur de technique médicale sont désormais autonomes vis-à-vis de l'Université de Lubumbashi. La cérémonie de passation de pouvoir entre l'ancien gestionnaire et les nouveaux responsables a eu lieu hier jeudi, mais les problèmes de deux instituts désormais indépendants ont plutôt buté à un problème d'infrastructure. Les détails avec Jean Gando.
Ces instituts d'enseignement supérieur ont fonctionné sous gestion de l'Université de Lubumbashi pendant plusieurs années. En 2002, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire signe un arrêté portant détachement de ces instituts vis-à-vis de l'Université de Lubumbashi. Et c'est le 23 mars dernier que des nouveaux gestionnaires de l'ISTEM Lubumbashi, ISTEM Kolwezi et ISC Lubumbashi sont nommés par le ministre de l'enseignement supérieur. Cependant, une préoccupation demeure. Comment ces institutions vont-elles évoluer sans bâtiment? Le professeur Kang Mate, directeur général de l'ISTEM, répond.
L'université qui a confronté au fait l'ISTEM comme l'ISC a accepté de nous accompagner dans notre délocalisation. Donc progressivement, on va trouver des moyens si la tutelle nous aide. L'université aussi doit nous aider parce que nous sommes un enfant de cette université.
Pour les instituts supérieurs de Lubumbashi, ils étaient hébergés par l'université de Lubumbashi. En attendant des nouvelles dispositions, ces institutions vont continuer à œuvrer dans les installations de l'UNULU, comme l'affirme le recteur de l'université de Lubumbashi, Prince Kaumba.
S'agissant des infrastructures, il a été proposé que l'université accompagne progressivement la délocalisation de ces deux établissements.
Pour leur part, les étudiants sollicitent de nouvelles autorités des explications sur les avantages de l'autonomie de leurs institutions respectives. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
L'actualité sportive, c'est bien sûr le coup d'envoi ce vendredi de la 18e édition de la Coupe du Monde de football. À ce sujet, la Société nationale d'électricité a annoncé qu'elle a mis en place un système de surveillance pour résoudre les pannes d'électricité. Elle annonce aussi la remise en marche de 24 cabines qui avaient été privées d'électricité à cause du vol des huiles de transformateurs. La DG de la SNEL, Vika Dipanzu, le dit au téléphone de Dona Madimba.
Oui, justement, pour tous ces transformateurs, on a venu de Lille, il y en avait 27. Nous avons acheté des stocks d'huile pour réalimenter en huile, mais il importe maintenant que la population puisse nous aider pour maintenant faire la vigilance autour de ces cabines et éviter qu'on puisse les voler encore, en tout cas en contribuant à la protection du patrimoine commun.
Et comment, selon vous, ces populations peuvent utilement protéger ces investissements?
Bon, je pense que lorsqu'on vient voler par effraction, ça fait beaucoup de bruit dans le quartier. Et parfois, lorsqu'on vient voler dans le quartier, c'est avec la complicité de ceux-là qui habitent dans le quartier. Donc, je pense qu'ils sont au courant de ce qui se passe, mais ils n'osent pas dénoncer. Moi, je pense que par civisme, ils doivent dénoncer.
Actualité internationale, une nouvelle tragédie de l'immigration clandestine a eu lieu vendredi dans les eaux internationales méditerranéennes au large de Malte et de la Sicile. 3 morts et 8 disparus, c'est le bilan du naufrage d'une embarcation en provenance de l'Afrique du Nord. En sport, le premier match de la Coupe du Monde 2006 se joue en ce moment. Pour l'instant, l'Allemagne mène face au Costa Rica sur un score de 2-1. Plus de détails dans notre journal de sport à 18h50, heure de Kinshasa. Vous écoutez Radio Capi, il est 18h15 à Kinshasa. Le prochain point de l'actualité, c'est à 20h, heure locale, 28 de programme. Okapi.